Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle...
Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre.
Ah bon?
Oui, c'était une pyramide à un seul côté, c'était un projet très intéressant.
C'est ça alors
Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette.
La Villette,
c'est une
oui.
sphère pyramidale.
Bien sûr, c'est évident.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématiques du jour, personnalités et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. L'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, David Pargamin, Lucie Tardy, Antoine Ravon, un nouveau déjà venu à qui on dit bienvenue, c'est Denis Ramon, et bien sûr Adèle Van Rett avec Nicolas Berger à la réalisation, Fabien Wolfrom à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Élise Le. L'histoire de l'art occidental peut être considérée, à certains égards, comme l'histoire des rapports, des accointances, des correspondances entre la création artistique et la recherche scientifique. Mais à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, la nature même de ces rapports se modifie. Si les arts dits traditionnels s'approprient, comme ils l'ont toujours fait, les découvertes scientifiques récentes, sans modifier en profondeur le statut de l'art, les artistes qui relèvent le défi technologique, notamment dans le domaine des arts plastiques, n'hésitent pas aujourd'hui à intégrer dans leur processus créatif des découvertes scientifiques qui bouleversent profondément la conception de l'objet d'art. Bio-art, art transgénique, biogénétique, à quoi s'ajoute la neuroesthétique, espace interdisciplinaire entre l'esthétique, les neurosciences et les sciences cognitives, qui représente aussi un autre aspect particulièrement novateur, ouvrant la voie à de nouvelles interrogations, telles que « Existe-t-il des dispositions neuronales, des structures cérébrales qui favorisent la reconnaissance et l'appréciation de la beauté ? La neuroesthétique pourrait-elle mettre au jour les processus physiologiques qui déterminent ou accompagnent l'expérience esthétique ? Ne serions-nous pas en mesure de donner son véritable sens au néologisme esthétique inventé au milieu du XVIIIe siècle qui définissait alors cette nouvelle discipline comme « science de la connaissance sensible » ? C'est donc de cette rencontre entre l'art, la science et la philosophie qui bouleverse tout autant la notion d'œuvre d'art que celle de jugement esthétique et qui fait ainsi peut-être advenir le véritable sens de l'esthétique dont il sera question aujourd'hui grâce à Marc Jiménez, philosophe et professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Marc Jiménez, à qui l'on doit ces lignes que je viens de lire et que j'ai le plaisir d'accueillir à l'occasion de la parution de son ouvrage chez Klingsic dans la collection 50 questions, art et technosciences, bio-art et neuroesthétique. Bonjour et bienvenue à vous Marc Jiménez.
Bonjour. En 1928, quand l'inventeur belge Victor Simon met au point le tout premier moulin à légumes, il a bon espoir de faciliter la vie de millions de ménagères. En l'an 2000, quand l'artiste Wim Delvoye invente Cloaca, il a un tout autre objectif. Créer la machine la plus inutile qui soit, il fabrique donc la machine à merde. Est-ce une métaphore de l'humanité? Ne sommes-nous pas tous de simples cloacas qui prenons des airs importants pour aller faire la grosse commission au bureau? Cela dit, faire de la merde, ce n'est pas si simple. Delvoye a même dû faire appel à de grands cerveaux scientifiques pour reproduire la digestion humaine. Résultat, une installation de 12 mètres de long avec 6 cuves de verre contenant toutes sortes d'enzymes et de sucs. À l'entrée, un broyeur, à la sortie, un petit plateau tournant sur lequel sortent ce que Wim appelle des sculptures de matière fécale.
Ça pue, hein?
C'est de la merde, s'écrient les détracteurs de l'art contemporain. C'est un scandale, scandent enfin les Lyonnais quand Cloaca atteint la capitale française de la gastronomie en 2003. Car on engagea des chefs de grande renommée pour nourrir Cloaca, qui a besoin de 2 repas par jour tout de même, pour sculpter des étrons, certes, mais des étrons 3 étoiles. Pourtant, pour Wim Delvoye, les sculptures produites par Cloaca sont absolument démocratiques.
C'est une expression personnelle, mais en même temps, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucune différence entre les races, les classes, les sexes.
Et quand on pense que depuis quelques années au Japon, on parvient à fabriquer des steaks à partir de matières fécales, on se dit que Wim a vraiment de l'avenir.
Marc Jiménez, alors voilà un exemple de la rencontre entre l'art, la science et les nouvelles technologies, c'est Cloaca. C'est une œuvre créée en 2000 par l'artiste plasticien belge Wim Delvoye. En fait, cette œuvre n'est rien d'autre qu'une machine à merde. En fait, elle reproduit le tube digestif de l'homme. En quoi cette œuvre est-elle représentative de ce que vous abordez dans votre ouvrage, de cette rencontre entre la science et l'art ?
Oui, l'exemple est bien choisi. L'exemple de Wim Delvoye, c'est très amusant de l'entendre défendre la fonction démocratique de la machine en rappelant qu'effectivement, bon, c'est un peu partagé, la machine qui illustre parfaitement l'égalité entre tous les individus sur la Terre. Oui, il disait lui-même qu'il voulait faire une machine très chère, très compliquée et qui surtout ne servait à rien. En fait, elle sert quelque chose, mais c'est peut-être pas à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, c'est un exemple de l'art biotechnologique, si on veut, plutôt technologique que biotechnologique, sinon que c'est un rapport indirect avec le vivant. Si on compare, on sait qu'au XVIIIe siècle, on avait la machine de Vaucanson qui avait inventé un canard et un canard digérateur. Ça, c'était au XVIIIe siècle, mais il n'utilisait pas évidemment tout ce que les techniques modernes nous ont appris et toute la technologie. Wim Delvoye, lui, oui, utilise effectivement tout ce que nous savons maintenant, des sucs pancréatiques, des enzymes, et effectivement, ça permet de construire une machine extrêmement sophistiquée qui aboutit au résultat que l'on sait, qu'on a très bien défini tout à l'heure. Alors, c'est une machine technologique, oui.
Mais finalement, dans ce cas-là, l'artiste fait appel à des techniques, à de la technologie, oui, pour créer, mais il ne modifie pas le vivant. Et même, en fait, il réactive d'une certaine manière une définition très classique de l'art, à savoir l'art comme imitation de la nature. Car cette machine n'est rien d'autre que la reproduction d'un tube digestif humain à qui l'on va donner à manger. Il y a même des chefs étoilés, comme on l'a entendu, qui ont fait des repas pour cette machine. Et donc, à produire de la merde comme le fait le corps humain tous les jours et comme le font les êtres vivants.
On va dire qu'elle est mimétique. Effectivement, elle n'apporte rien de plus que ce que nous savons déjà dans le vivant. Enfin,
donc elle a un côté juste purement scandaleux ?
Elle a un côté provoquant, ça très certainement. Je pense que faire allusion à la défécation et aux déjections, il y a une constante un petit peu dans l'art contemporain. Hein. On la connaît, on y reviendra peut-être. Bon, et il a joué sur cet aspect effectivement pour dire, ben voilà, moi, on produit du beau. Une machine sophistiquée, c'est fait pour produire quelque chose qui rentre dans l'ordre de la séduction. Ben là, je vais faire le contraire et je vais faire effectivement une machine à merde. Alors évidemment, ça marche, moi, c'est la provocation. Mais est-ce qu'il y a vraiment transgression ? Non, puisque, comme vous venez de le dire, il ne fait que, effectivement, reproduire le fonctionnement naturel d'un organisme vivant.
Alors, à quel niveau peut se jouer peut-être quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire dans cette rencontre entre l'art et les sciences ? C'est-à-dire que, là, c'est vrai que dans le cas de Wim Delvoye, il y a quelque chose d'assez, finalement, classique qui est de faire appel à de la technique, à de la technologie pour produire une œuvre d'art. L'enjeu est-il de dénoncer quelque chose ? Donne-t-il une finalité à l'art qui va bouleverser, en fait, ou là, l'appel, en fait, à cette nouvelle technologie va peut-être bouleverser les limites qu'on donne à l'œuvre d'art, la signification qu'on donne à l'œuvre d'art. Est-ce qu'il y a déjà ça qui se joue avec Cloaca, avec cette œuvre de Wim Delvoye ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans le registre de l'humour, avec un petit peu d'ironie et de jeu. Surtout, je crois que c'est vraiment la dimension humoristique qui l'emporte de la part de quelqu'un, on l'a entendu lui-même tout à l'heure, joue sur non pas la transgression, Mais il s'agit de montrer, en fait, d'ailleurs, sur un plan strictement, je dirais, pédagogique presque, ce qu'on peut faire avec les découvertes récentes en matière de digestion, en matière d'action que l'on peut opérer à l'intérieur du vivant. Mais ça bouleverse pas grand-chose. Non, c'est vrai. Ça provoque. Ça fait rire. Ça fait sourire. Ou alors, ça dégoûte. Voilà, donc on est dans le registre, je dirais, esthétique et de la sensibilité. Ça peut provoquer toute une gamme, effectivement, de réactions diverses. Pour ma part, je prends ça comme, encore une fois, quelque chose pour faire rire, quoi.
Donc ce serait purement, ce qui est déjà pas mal, hein.
Oui, c'est pas mal.
De faire rire, mais alors, est-ce qu'on devrait y voir, parce que Wim Delvoye dit, non sans ironie, il y a une dimension démocratique, c'est-à-dire que finalement, l'appel à la machine est là pour rappeler que nous ne sommes que des corps, que nous sommes tous les mêmes, qu'il n'y a pas de distinction de race, pas de distinction de sexe. Il y a quand même un propos un peu politique, ou non, pas du tout, il faut enlever ça.
Est-ce que ce propos politique ou cette dimension politique a présidé à l'élaboration de l'œuvre ou est-ce qu'elle vient comme justification a posteriori pour dire vous voyez ma machine est là et maintenant voilà ce que je peux en dire. C'est très souvent le cas, hein. C'est-à-dire que je crois que l'artiste il est dans l'élaboration de son œuvre et il a construit une machine. Il a pas fait que ça d'ailleurs, hein. Wim Delvoye il a fait des choses aussi.
Bah, déjà, il faut quand même dire que Cloaca a connu plusieurs... C'est une série, en fait.
Il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine. Et alors, ce qu'il y a d'assez étonnant, ce qui concerne Cloaca même, c'est que, en raison... Ça, c'est important, parce que la première machine, elle a été faite en 2000. Et évidemment, en 2016, il ferait plus la même. Et la dernière œuvre était beaucoup plus petite et ramassée en raison même des progrès technologiques que l'on faisait sur les phénomènes de compréhension de la digestion humaine. Moi, au départ, elle était immense, et puis après, maintenant, elle pourrait tenir dans un petit caisson. Hein.
Bon, alors, je vais vous poser la question très simplement, en quoi est-ce de l'art?
Alors, est-ce que, oui, la question, vous pouvez la poser. C'est une œuvre qui répond finalement à ce qu'on attend bien souvent de l'art contemporain, et que les artistes contemporains, certains, exploite à fond, c'est bousculer, si on peut dire, ou titiller la sensibilité de l'individu. Alors là, elle réussit. Est-ce que c'est une œuvre d'art au sens classique du terme? Non, bien entendu.
Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art au sens classique du terme?
Non, ça n'est pas une œuvre d'art au sens classique du terme, parce que ni dans sa forme, ni, j'allais dire, dans son contenu, passez-moi l'expression, elle ne répond à ce qu'on entend traditionnellement dans l'œuvre d'art. Bon. Mais c'est une œuvre, je dirais, un objet esthétique dans la mesure où elle interpelle fatalement notre sensibilité. Il n'y a qu'à voir notre réaction et ici. Hein.
Donc en fait, ce serait une sorte de, avec les sciences par exemple, il y aurait une sorte d'élargissement en fait de cette, non pas de la notion d'œuvre d'art, parce qu'on conserverait en fait une définition traditionnelle de l'œuvre d'art qui servirait comme étalon, mais il y aurait en revanche un élargissement du terme d'esthétique sous lequel tomberaient en fait des objets beaucoup plus inattendus.
Oui, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Et on va le redire pratiquement, on peut le dire pratiquement pour toutes les œuvres du bio-art.
Redites-moi un peu ce que vous faites.
Je suis chercheuse spécialisée dans les parfums et je collecte des odeurs.
J'adore.
Vous sentez quelque chose?
Oui, ça sent quelque chose. Le bois, la forêt.
C'est pas si mal. Ce qui est drôle, c'est que quand on essaie de décrire les odeurs, on a du mal à trouver les mots. On utilise toujours des métaphores. Ça sent les feuilles, la forêt.
C'est agréable.
Ah oui? C'est une cave humide.
Ah!
C'est donc ça.
Une cave humide.
Eh oui.
Pourtant, ça m'a semblé agréable.
Mais oui, pourquoi pas?
Je dois avoir de beaux souvenirs dans des caves humides.
Sans doute. Encore un?
Oui. Ça, je connais. Suée d'angoisse.
Absolument. C'est fou, super. Un dernier. Ensuite, on mangera un peu de fromage.
Je sais pas.
Des pieds qui puent.
Ah, des pieds qui puent.
Maintenant, on peut passer au fromage.
Thank you. l'œuvre artistique tient le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. Ce n'est pas encore de la pensée pure, mais en dépit de son caractère sensible, ce n'est plus une réalité purement matérielle, comme sont les pierres, les plantes et la vie organique. Le sensible dans l'œuvre artistique participe de l'idée. Mais à la différence des idées de la pensée pure, cet élément idéal doit en même temps se manifester extérieurement comme une chose. Cette apparence du sensible s'offre de l'extérieur à l'esprit, à titre de forme, d'aspect, de sonorité, à condition qu'il laisse les objets exister en toute liberté, sans cependant essayer de pénétrer leur essence intime, ce qui les empêcherait d'avoir pour lui une existence individuelle. C'est pourquoi le sensible dans l'art ne concerne que ceux de nos sens qui sont intellectualisés, la vue et l'ouïe, à l'exclusion de l'odorat, du goût et du toucher. Car l'odorat, le goût et le toucher n'ont affaire qu'à des éléments matériels et à leur qualité immédiatement sensible. L'odorat à l'évaporation de particules matérielles dans l'air, le goût à la dissolution de particules matérielles, le toucher au froid, au chaud, au lisse, etc. Ces sens n'ont rien à faire avec des objets de l'art qui doivent se maintenir dans une réalité indépendante et ne pas se borner à offrir des relations sensibles. Ce que ces sens trouvent d'agréable n'est pas le beau que connaît l'art.
Alors n'en déplaise à Hegel, hein, dont on vient d'entendre, interprété par Fabien Wolfrom, un extrait de son introduction à l'esthétique qui date de 1818, et donc que vous citez Marc Jiménez dans votre ouvrage, l'odorat aujourd'hui devient, on l'a entendu avec la voix de l'artiste norvégienne Sissel Tollas, donc l'odorat devient, avec les arts olfactifs, un sens intellectualisé, quelque chose qui relève d'une réalité qui peut se maintenir. Et donc du coup, là, la science nous permet de revoir la classification des arts que proposait Hegel au début du 19e siècle et nous permet pour le coup, là, de repenser l'idée même que l'on se faisait de l'art, mais aussi de l'œuvre d'art, de ce qui était intellectuellement esthétique ou pas.
Oui, c'est exact. Je pense que, pour en termes un peu actuels, on dirait que Hegel excluait tout ce qui relève de la finalement de la synesthésie, c'est-à-dire cette rencontre ou correspondance entre les différents sens, et il excluait le goût, le toucher, l'odorat, parce qu'il dit bon, ça c'est pas de l'art, c'est trop matériel, c'est trop sensible, et effectivement ça ne permet pas d'atteindre la dimension spirituelle, c'est la phrase que vous avez citée. Et alors effectivement, je pense qu'avec les possibilités que nous offre la technologie, par exemple ce que fait Sissel Tollas, c'est-à-dire d'encapsuler des odeurs, enfin c'est assez étonnant, micro-encapsuler des odeurs, c'est curieux, ça vient pas à l'idée immédiatement, et d'en faire un mur. Ça, c'est une installation que j'ai vue, à laquelle j'ai assisté. Elle avait fait ça au Luxembourg, au Forum d'art contemporain. Il y avait tout un mur, et quand vous mettiez votre main sur le mur, les microcapsules évidemment étaient écrasées, elles dégageaient ces odeurs. Alors là aussi, évidemment, on est dans l'esthétique, dans la sensibilité, dans la réaction. En ce qui concerne Sissel Tollas, elle avait là, pour le coup, mais elle fait pas que ça, hein, elle avait choisi des odeurs extrêmement désagréables. C'est-à-dire des odeurs, comme l'aurait dit Wim Delvoye tout à l'heure, ça pue. Ben, effectivement, ça sent mauvais, parce que elle avait recueilli les odeurs corporelles d'individus, je vais dire tout simplement, qui souffraient. Alors, elle dit, elle, de paranoïa, de phobie, c'est-à-dire des gens qui
sécrètent
finalement, oui, qui suaient d'angoisse et de peur. Alors, je ne sais pas comment elle a procédé vis-à-vis de ces individus, mais toujours est-il que c'est ce qu'elle dit. Et par conséquent, quand vous mettiez votre main et que l'odeur s'est dégagée, vous deviez pouvoir sentir la sueur, bien évidemment.
L'angoisse,
mais
en fait.
De peur, l'angoisse.
En fait, les murs sués d'angoisse.
Voir la terreur et les phobies dont étaient atteints ces individus. Alors, ce qu'il faut dire, d'ailleurs, Géraldine, c'est que Sissel Tollas, c'est un bon exemple de la formation qu'ont reçue ou que reçoivent un certain nombre d'artistes du bio-art. Ils sont à la fois artistes. Sissel Tollas, elle a fait l'Académie des arts, des beaux-arts de Bergen, dans son pays, mais dans le même temps, elle a étudié la chimie, elle a étudié les mathématiques, je veux dire, elle est diplômée, donc elle a la double formation, disons une double compétence qui lui permet évidemment de réagir en artiste, c'est-à-dire de faire ce travail qui, sur le plan visuel d'ailleurs, est pas inintéressant, est assez étonnant. Maintenant, sur le plan olfactif, bon, ben, c'est ce qu'on en a dit, mais à la fois avec des arguments de chimie, c'est-à-dire, c'est ce qu'elle fait. Et elle a recueilli près de 10 000, elle a 10 000 archives d'odeurs qu'elle conserve. Et pas seulement des odeurs désagréables, mais des parfums de toutes sortes. Hein. De là, vous dire, un peu par plaisanterie, que ça fait un nez, comme on dit en parfumerie, peut-être un petit peu...
Alors, est-ce que ça fait œuvre, en revanche?
Oui, bien entendu, ça fait... Vous savez, je crois que la notion d'œuvre, notamment dans le bio-art, une bonne fois pour toutes, il faudrait l'étendre, lui donner le maximum d'extension. À partir du moment où vous faites une installation, à partir du moment où vous avez un public, à partir du moment où vous amenez ce public à réagir, à partir du moment où il y a un aspect un peu... performance quand même, hein, parce que vous agissez en tant qu'acteur, vous, micro-performance de l'individu ou du spectateur devant l'œuvre, où bon, ça relève effectivement de quelque chose qu'on ne peut pas classer ni dans l'expérience scientifique, ni dans tout à fait dans n'importe quoi, parce que ça a quand même une signification.
Ni dans l'artisanat.
Bon, c'est effectivement, ça répond à la forme élargie de l'œuvre d'art qui est celle d'une grande partie de l'art contemporain.
Alors, ce qui est intéressant avec les odeurs qu'a reproduites Cicel Tolas, à la différence de Cloaca de Wim Delvoye, c'est que le Cloaca, finalement, on a un recours à une dimension technique qui paraît, qui est tout à fait incroyable sur le plan de la réalisation, mais là, on est assez stupéfait par le processus qu'a dû être de récolter des odeurs, les reproduire scientifiquement, et finalement, en fait, on peut se demander quelle est la différence, en fait, entre une odeur. C'est le bio-art, en fait, renouvelle une question qui était déjà à l'œuvre dans l'art moderne et dans l'art contemporain. C'est qu'est-ce qui fait une œuvre d'art, finalement? Hegel disait que ça devait être une œuvre qui se présentait au sens intellectualisé. Là, dans le cas de cette odeur, on peut dire que c'est le fait qu'elle ait été reproduite et qu'elle ne soit pas naturelle, mais néanmoins, la science se permet d'emprunter des voies qui semblent naturelles, tout aussi naturelles. Alors, qu'est-ce qui va différencier? La même manière qu'on se demandait qu'est-ce qui différencie une soupe Campbell d'une soupe Campbell, qu'est-ce qui différencie une odeur de sueur d'une odeur de sueur?
Vous savez, ce qui nous encombre là actuellement, Géraldine, c'est la notion d'œuvre. Et je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là parler comme Duchamp, et comme ce qu'on en a dit à propos de Duchamp, notamment André Breton, c'est que si vous remplacez le terme œuvre, qui est quand même très très lourd historiquement au regard de l'histoire de l'art, par l'expression tout simplement objet d'art, les choses vont beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous faites rentrer un objet quelconque, en ce qui concerne Marcel Duchamp, c'est le fameux ready-made, c'est l'objet n'importe quoi, mais à ce moment-là, il se trouve doté de qualité, il se trouve érigé, c'était le mot d'ailleurs d'André Breton à propos de Duchamp, au statut d'objet d'art, c'est-à-dire offert à la reconnaissance d'un public qui est amené, ou non d'ailleurs, à participer. Hein, où le public rentre dans le jeu, dans ce moment, on n'est pas forcé de regarder avec admiration un porte-bouteille. Mais, j'allais dire, on fait que ça depuis 1913, hein, ou 1912. En ce qui concerne l'œuvre de Cicel Tolas, c'est une expérience qui relève de la sensibilité, qui relève de l'esthétique, vraiment au sens étymologique. C'est vraiment une réaction du corps, désagréable ou désagréable. Vous savez, dans l'esthétique, vous avez... Emmanuel Kant l'avait très bien dit. Par esthétique, j'entends aussi bien les réactions de plaisir, ce qui provoque un sentiment de plaisir, que ce qui provoque un sentiment de déplaisir. Alors maintenant, si on s'interroge sur qu'est-ce que le plaisir et qu'est-ce que le déplaisir, là, on va rentrer dans autre chose qui risque de nous prendre jusqu'à la fin de l'émission. Mais l'esthétique, c'est aussi ça. À partir du moment où vous réagissez, il n'y aurait rien de pire que l'indifférence. Je veux dire, par là, si vous passez devant le mur de Cicel Tolas comme un passant ou un touriste pressé d'aller de traverser le couloir, bien évidemment, rien ne se passe. Par contre, si vous êtes attentif à l'événement qui va se produire, à ce moment-là, vous êtes déjà dans ce qu'on peut appeler esthétique. Mais c'est pas nécessairement le beau, au sens où Hegel, lui, voulait que la philosophie de l'art soit liée.
Oui, d'ailleurs, Hegel, à la fin du texte, dit « ce que ses sens trouvent d'agréable ». Alors, ses sens, ça veut dire l'odorat, le goût et le toucher qu'il excluait, en fait, de l'art. Donc, ce que ses sens trouvent d'agréable n'est pas le beau que connaît l'art. Et finalement, c'est intéressant parce que là, il y a aussi une inversion aujourd'hui qui est que, donc, non seulement l'agréable réhabilité parce qu'on élargit le sens de l'esthétique comme le sentir, mais aussi il y a un renversement qui est que plus c'est désagréable, plus c'est laid en fait, et plus aussi ça devient beau dans le sens où intéressant, artistiquement parlant. Et là aussi, il y a un renversement qui se fait où, et même d'ailleurs dans le bio-art, il y a ça aussi, c'est-à-dire que l'œuvre, le processus qui est à l'œuvre, est plus intéressant que le résultat même final. C'est-à-dire
oui,
que ça absolument. Devient des performances incroyables.
Mais absolument, mais vous savez, j'ai parlé de Duchamp, on pourrait parler de vous-même en avez parlé, Andy Warhol. Mais qu'y a-t-il de plus, alors je dirais artistiquement nul, le terme est un peu fort, mais je l'emploie à dessein, que des facsimilés de boîtes, et là je fais allusion aux boîtes Brio, de poudre à écurer, de produits à écurer. C'est d'une trivialité totale. Bon, et pourtant, vous avez toute la réflexion d'un philosophe américain, Arthur Danto, qui s'est penché sur la question, il a fait que ça pendant une grande partie de sa vie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que, comme on l'a dit d'ailleurs, la boîte Brio, l'authentique boîte du fabricant Brio, c'est tout simplement un emballage qui va terminer dans les poubelles du supermarché. Et puis, la boîte Brio d'Andy Warhol, elle est dans les musées, elle est considérée comme une œuvre d'art. Bien. Alors, qu'est-ce qui change alors que vous avez deux produits qu'on ne peut pas distinguer normalement, deux choses qu'on ne peut pas distinguer visuellement, perceptuellement. Mais il y en a une qui se trouve à entrer dans le monde élargi, on va dire, de l'art.
Oui, mais alors ça,
c'est ça notre époque. Il y a ça aussi dans l'art contemporain. D'une certaine manière, les œuvres d'art, j'anticipe, excusez-moi Géraldine, mais d'une certaine manière, ces œuvres d'art contemporain, on peut les considérer comme des ready-made. C'est-à-dire que ça requiert l'attention du public qui va les faire rentrer dans ce champ que j'ai appelé extrêmement élargi de l'art contemporain, mais il peut refuser, bien évidemment, le public est libre, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait parfois, hein.
Mais là, vous faites appel à ce qu'on appelle la théorie institutionnelle de l'art, qui est la théorie de Georges Dickey, qui n'est pas seulement celle de Danto. Lui va mettre l'accent, si je ne me trompe, sur l'intention de l'artiste, le discours de l'artiste. On va avoir aussi un théoricien comme Nelson Goodman qui va parler du langage de l'art, tout ce qui permet en fait de différencier un objet du quotidien d'un objet d'art. Dans le cas des odeurs de Cicel Tolas, c'est particulièrement intéressant parce que c'est le fait qu'elle soit aussi dans une galerie qui fait effectivement qu'elle requiert l'attention du public, qui fait qu'elle va tenir un discours sur les odeurs, sur la paranoïa, sur peut-être un état d'esprit propre à notre époque. Néanmoins, en fait, avec ce terme d'objet, on garde celui d'art, qui est tout aussi surplombant, écrasant, finalement. Est-ce qu'on ne devrait pas garder tout simplement le terme d'objet? Mais alors, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui relève d'être un objet du quotidien, d'être un objet qu'on mettrait dans un musée? Non, mais c'est vrai que le terme d'art aussi, alors à ce moment-là, est écrasant, en fait. Qu'est-ce qui reste de l'art?
Ben, écoutez, ce qui reste une chose, là, c'est pas pour faire de l'argusie, mais enfin, au sens quand même, en Grèce, le mot art, c'est techné. Donc, en fait, ce qui reste, c'est quand même un projet, une méthode, une technique, une intention, une volonté d'attirer le public, pour le dire très très simplement. Donc ça relève d'une technique de présentation d'un objet. D'une certaine manière, c'est de l'art. C'est-à-dire, on a survalorisé, notamment dans notre culture occidentale, le terme « art », on l'a sacralisé, bien évidemment, pendant longtemps, et pourquoi pas, je veux dire, j'y vois pas d'inconvénient, mais il faut le savoir. Et quand, effectivement, au cours du XXe siècle, on commence à désacraliser ce terme art, sans en vouloir pour autant, ni dénigrer ce qui s'est fait antérieurement, mais pour dire il y a une autre manière de toucher la sensibilité des gens qu'en leur présentant toujours les mêmes œuvres qu'on a faites pendant des siècles, on est dans ce, encore une fois, un élargissement, une extension maximale de la notion d'art, où l'on retrouve d'ailleurs le sens de techné. C'est important ça, notamment dans l'application et le recours aux technosciences et leur intervention dans le champ artistique.
Alors je vous disais, Marc Jiménez, qu'est-ce qui est de l'art? Est-ce que Cloaca c'est de l'art? À l'inverse, si on étend à ce point-là l'esthétique et l'art, qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Qu'est-ce qui n'est pas susceptible d'être de l'art? Qu'est-ce qui, finalement, en fait... Et puis, se pose la question de si l'art est par essence transgressif, si tant est qu'on donne une définition à l'art, quelle limite, en fait, l'art va-t-il pouvoir transgresser dans la mesure où, en fait, on va élargir au maximum cette définition?
Je pense qu'on peut déterminer une limite. C'est-à-dire qu'on appellera peut-être pas, parce que c'est plus compliqué que ça, je vais vous dire pourquoi. On appellera peut-être pas des gens qui servent à une finalité immédiate, concrète, matérielle, un objet utilitaire quelconque. Encore que, et notamment le XXe siècle et le XXIe sont riches de ces exemples, ou même des objets à finalité pratique, concrète, immédiate, utilitaire, prosaïque, vulgaire, on va dire, peuvent recevoir la sanction du design qui va, d'une certaine manière, les transfigurer aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que là, il y a une frontière admissible, me semble-t-il, qui permet de distinguer ce qui relève de l'art qui, quand même, n'a pas de finalité généralement immédiate. C'est un peu ce que disait Wim Delvaux de Cloaca. Je voulais une machine qui ne sert à rien. D'une certaine manière, le mur d'odeur de Cicel Tholos, il ne sert à rien.
Mais c'est ça d'ailleurs le mieux, pratique. En fait, on préfère d'ailleurs que ces objets-là ne servent à rien et que l'art soit pour rien. Or là, on a quand même l'impression que l'art avec la science va dire quelque chose.
Alors certaines œuvres, on en parlera sans doute, certaines œuvres du bio-art, biotechnologique, effectivement peuvent avoir cette fonction de dire, il y en a beaucoup hein, dans le champ contemporain, par exemple, tout... Les artistes qui travaillent, artistes et à la limite artistes et scientifiques, qui travaillent sur l'ADN, qui travaillent sur le génome, qui travaillent sur toutes les manipulations génétiques, peuvent dire ou trouver argument en disant, vous voyez, je peux faire des expériences extrêmement poussées très très loin dans le sens de la technologie, mais alors attention, parce que voilà ce qu'on risque d'obtenir si on clone n'importe comment, si on fait n'importe quelle manipulation génétique, si on fait des combinaisons hasardeuses. D'abord, il y a des risques énormes, parce que ça modifie complètement le statut même de l'individu et de l'être humain, notamment pour ce qui concerne les interventions sur le vivant, intervenir sur le corps, qu'il soit le corps humain, le corps animal ou le végétal, ça n'est pas innocent du tout. Et dans ce cas-là, à quoi peuvent conduire ces manipulations, sinon à des choses dangereuses. Beaucoup d'artistes du bio-art se mettent en position, entre guillemets, de lanceurs d'alerte pour dire « Attention, voilà ce qui risque d'advenir si on va très très loin dans ce genre d'expérimentation. »
Je fais partie d'un duo d'artistes avec Benoît Mangin qu'on a appelé « Art orienté objet » en 91. Et ici, on présente un travail qui s'appelle « Que le cheval vive en moi ». C'est un travail qui vise à essayer à la fois de rencontrer l'animal. C'est pour ça qu'on a fait toute une recherche en éthologie avec une éthologue luxembourgeoise qui est Sabine Rouas, avec laquelle donc on a appris à apprivoiser ce cheval sur un plan éthologique. Pour cet apprivoisement, on a fabriqué des prothèses pour que je sois à la même hauteur que lui. Et puis, à travers toute une chorégraphie donc, de la performance, on a fait cette injection. Après cette injection, on a récupéré mon sang qu'on a lyophilisé pour en faire des échantillons qui permettent d'avoir des genres de reliquaires qui contiennent finalement nos deux sangs mêlés, à moi et au cheval. Donc c'est d'une certaine manière des preuves que cette hybridation a eu lieu. Après cette expérience, pendant une à deux semaines, j'ai eu des conséquences physiologiques très étonnantes. Par exemple, je dormais par à-coup d'une heure et puis j'étais réveillée, puis je dormais une heure, puis j'étais réveillée. Exactement comme les chevaux qui dorment par petits morceaux comme ça. Je me sentais très très forte, très puissante, je mangeais beaucoup. Et en même temps, quand on me touchait, j'avais très peur de tout. Et là, j'ai pu comprendre que le cheval était un animal qui pouvait à la fois ressentir une puissance physique et une peur mentale qui lui avait permis de survivre à travers les siècles.
Et c'est reparti, encore du saucisson. De cheval, que je vous ai dit, belle dame aux yeux de biche et à la bouche plus pourrine. De cheval, sur le coup de 5 heures. De cheval, je vous invite ma chère. De cheval, à Massy-Palaiseau. De cheval, c'est là que j'habite. En banlieue, vous goûterez mon flanc. De cheval, et je vous ferai monter. À cheval, nous serons en groupe. De cheval, de copains, copines. Très sympa. Si venez, je vous ferai des gâteries. J'ai acheté des œillères.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34, bienvenue sur les chemins du vendredi où aujourd'hui j'ai le plaisir de parler de la transformation de l'art, des notions d'œuvre d'art, de beau et de jugement esthétique au contact des sciences avec le philosophe Marc Jiménez, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de la collection d'esthétique chez Klinksic, dont l'ouvrage Art et Technosciences, Bioart et Neuroesthétique paraît justement chez Klinksic.
De cheval, des angles, des carreaux. De cheval, pour être à l'abri de la bise. La bise, moi, je la crains. De cheval, quoi, ça vous épate? De cheval, je vous jure que je n'aime pas le froid. Que je sois damné si jument. C'est idiot, damné si jument. Dans une surboom, cette fille déjà bas.
Marc Jiménez, vous proposiez en fait que le terme d'esthétique soit élargi dans l'art contemporain et dans cette mouvance qu'est le bio-art. On vient d'entendre la voix de Marion Laval-Janté, alors qui est une artiste incroyable hein, quand même. Alors là, pour le coup, notre attention est complètement requise parce qu'on peut soit être mort de rire, soit être parfaitement dégoûté à l'idée en fait qu'elle se soit fait transfuser du sang de cheval et qu'elle nous explique qu'elle se soit mise à niveau d'un cheval avec, en mettant des prothèses, donc des sabots, qu'après, en fait, elles ressentent du coup qu'elles se sentent comme un cheval, donc elles dorment. Donc c'est quelque chose de complètement fou, mais là, on voit aussi qu'on est passé à une autre dimension du bio-art, qui n'est pas de reproduire scientifiquement une odeur, qui n'est pas de faire appel à des procédés techniques, technologiques, mais qui est d'agir sur le vivant lui-même, qui est là, et le corps de l'artiste elle-même.
Oui, c'est une expérience, on peut dire, extrême. C'est le travail, effectivement, de Marion Laval-Janté et de Benoît Mangin, son compagnon. Et c'est vraiment un travail dont Marion a dit elle-même qu'il s'agissait vraiment de poser la question de la manipulation du vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce que, effectivement, le vivant animal et humain, évidemment, et qu'est-ce qui se passe quand on pousse très loin ce type d'expérience. Alors, elle avait voulu commencer avec du sang de panda. Et elle avait intitulé cette expérience qui a tournicure, elle n'a pas été faite, que le panda
vive en moi.
Que le panda vive en moi. Voilà. Et puis finalement, ça n'a pas été possible. Et puis d'autre part, il y avait peut-être des risques. Mais où elle a été très loin, parce que vous parlez effectivement de l'aspect performance, c'est-à-dire effectivement des prothèses qu'elle s'est mis pour...
Donc des sabots en sous forme de prothèses.
Et des sabots, bien, une sorte de centaure d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas seulement ça qu'elle a fait. C'est qu'elle s'est fait injecter du plasma et des hémoglobulines dans le sang. C'est-à-dire que c'est son sang lui-même, c'est-à-dire... On appelle ça en termes médicaux de la xénotransplantation, c'est-à-dire deux corps étrangers, du sang animal dans un corps humain. Il y a d'autres exemples, mais enfin bon, celui-là, évidemment, il est assez spectaculaire. Et elle dit qu'elle a ressenti effectivement ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette espèce d'hyperactivité.
Et en même temps de frayeur.
De frayeur avec des réactions. Je dirais assez radicales, quoi, assez étonnantes. Alors évidemment, ça attire l'attention. Si on la suit dans son propos, parce qu'elle tient évidemment un propos qui va très très loin sur le plan...
D'ailleurs,
même.
En fait, ce genre d'acte ne peut pas se passer de discours de l'artiste.
Ah non, il faut pouvoir le justifier, bien entendu. On va dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous imaginez tout le monde s'injecter du sang animal comme ça, pourquoi pas du sang de souris, de tout ce que vous voulez. En fin de compte, ça n'a pas été si simple. Hein. Ça s'est fait quand même sous un contrôle médical. Et Marion Laval-Janté est extrêmement précise là-dessus et consciencieuse sur ce point. Hein. C'est pas simplement, tiens, je prends une seringue, je m'injecte du sang de cheval, etc. Non,
je
pas du
ce que
tout.
Ça donne.
C'est passé par l'Institut Pasteur quand même. Hein. Voilà.
C'est intéressant d'ailleurs justement cette espèce de rapport, en fait, d'articulation entre des procédés qui sont très rationnels, scientifique,
oui,
encadré médicalement.
Il n'y a pas droit à l'erreur.
Il n'y a pas droit à l'erreur.
Ah
ou en fait, il y a des limites éthiques, mais à l'inverse, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire qu'à l'extravagant, c'est-à-dire qu'il y a des, on voit, donc là, c'est de l'injection de sang de cheval, il y a des steaks de grenouille, il y a Julia Reodica qui fait... Alors, ça, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Julia Reodica,
c'est absolument étonnant. plans, puisque elle cultive des cellules à la fois animales et des cellules de son propre vagin dans un bioréacteur, vous savez, un fermentateur qui permet de multiplier effectivement les cellules, enfin voilà, comme une sorte de couveuse en quelque sorte, et elle obtient des fines membranes de peau auxquelles elle donne une forme particulière et symboliquement marquée pour certains dans leur centre du signe femelle et du signe mâle. Et ce sont des membranes qui peuvent, selon elle, servir à greffer effectivement des virginités qui ne le sont plus. Où l'on sait effectivement que dans certaines cultures, certaines civilisations,
elle les appelle effectivement des sortes de... Pardon, allez-y.
Oui, certaines... comment on appelle ça, l'hyménoplastie est une pratique, on le sait, assez courante, notamment en certaines périodes de l'année. Tous les laboratoires confirment qu'effectivement, en période de mai et juin, période des mariages, certaines jeunes femmes ont recours effectivement à cette hyménoplastie pour reconstituer ce gage de pureté qui, effectivement, dans leur culture ou leur religion, est une garantie.
Il y a une sorte de mise en scène en fait, de cette virginité et effectivement de cette défloraison, donc de cette perte de la virginité. Et là, on voit bien en fait, que l'art veut dire quelque chose, qu'il veut produire aussi son propre discours et donc ses propres conditions en fait de réflexion et de réflexivité, à l'inverse à un moment donné d'une période où en fait la philosophie avait un regard surplombant sur l'art, mais néanmoins là où l'art ne peut pas se passer de la philosophie il en est question maintenant, c'est qu'on peut peut-être trouver que la notion d'œuvre d'art et d'art est écrasante, néanmoins la question là qui se pose par rapport au corps implique de faire peut-être appel à la philosophie, ne serait-ce que pour voir que l'art transforme notre vision du corps, nous en dit quelque chose et on doit le prendre en compte. En fait, c'est-à-dire que le corps, finalement, n'est plus cette chose que l'on doit célébrer, mais instrumentalisé d'une certaine manière par l'art. Qu'est-ce que ça en dit ? Et du coup, comment la philosophie, là, a une chose à dire ?
Oui, tout à fait. Pour préciser l'histoire du travail de Riodica, elle travaille dans le corps médical, elle est infirmière de formation et d'origine philippine, mais elle travaille aux États-Unis. Simplement, en ce qui la concerne, et pour rejoindre un peu ce que vous dites, c'est que socialement et symboliquement, c'est très lourd de signification. C'est-à-dire que c'est une expérience artistique qui, évidemment, va très très loin dans la dénonciation de préjugés idéologiques et religieux. Donc c'est l'art qui sert là, on peut dire, d'argument ou de truchement pour, effectivement, aller beaucoup plus loin sur le plan humain, bien entendu. Sur le plan corporel, c'est très clair, puisqu'il s'agit d'une intervention directe sur le corps humain. Et puis sur le plan symbolique aussi, parce que ça désacralise quand même considérablement ce que Freud appelait le tabou de la virginité.
Et donc là, à ce moment-là, l'art ne peut pas se passer de la philosophie, parce que là, c'est en philosophe que vous parlez.
Ah oui, c'est en philosophe, bien entendu. Je pense que le travail de Julia Riodica, comme celui de Marion Laval-Jantet, trouve effectivement son complément dans une réflexion philosophique, en essayant de dégager les implications sociales, morales, éventuellement éthique du travail des artistes. Vous savez, c'est tout l'intérêt quand même, même si on peut le dénigrer, on en pense ce qu'on veut, du travail des bio-artistes et du travail actuellement qui fait se rencontrer les technosciences et finalement l'art.
L'enjeu, en fait, c'est pas tellement de se demander s'il y a une définition, en fait, de l'art qui va perdurer, qui est transformé. C'est vraiment, en fait, là, le philosophe et peut-être le travail esthétique qui est en jeu dans le sens du sentir. C'est effectivement, en fait, d'élargir et de se poser la question du philosophe qui doit prendre acte des transformations de l'homme plus que de l'art, en fait, de l'éthique, de la politique. Et là, il y a une dimension proprement politique à l'esthétique.
Oui, absolument. Ce sont les implications et les enjeux multiples que pose, effectivement, la création, cette forme de création, faut employer le mot création aussi, il ne faut pas l'oublier, cette forme de création à l'époque contemporaine.
On voit qu'il y a un accroissement de complexité considérable qui permet de passer d'un cerveau, disons, de singe à un cerveau d'homme. Et parmi ces étapes, il y a bien entendu l'accroissement d'air cortical, du cortex cérébral, qui intervient dans le langage, mais aussi et surtout ce que nous appelons le cortex frontal. Et cette... partie de notre encéphale, en quelque sorte, explose. Je dirais explose parce que elle double de surface en quelques millions d'années. Et cet accroissement de surface de singes relativement primitifs jusqu'à l'Homo sapiens est un processus qui, justement, a conduit à la raison. Et ce qui est aussi très remarquable, c'est qu'au cours de cette évolution, les connexions entre ce cortex préfrontal et le système limbique, qui intervient donc dans les émotions, se trouvent extraordinairement riches. Et l'art apparaît d'emblée comme une sorte de mise en harmonie de ces fonctions les plus élevées de notre cerveau avec cette émotion à la fois de plaisir, mais qui peut aussi quelquefois être de détresse.
Mon émotion est si profonde qu'elle va presque jusqu'à la piété. Le sombre religieux de cette église, son toit en simple charpente, sa façade non terminée, tout cela parle vivement à mon âme. Ah, si je pouvais oublier. Un moine s'est approché de moi. Au lieu de la répugnance allant presque jusqu'à l'horreur physique, je me suis trouvé comme de l'amitié pour lui. Fra Bartolomeo de San Marco fut moine aussi. Ce grand peintre inventa le clair-obscur. Il le montra à Raphaël et fut le précurseur du Corrège. J'ai parlé à ce moine, chez qui j'ai trouvé la politesse la plus parfaite. Il a été bien aise de voir un Français. Je l'ai prié de me faire ouvrir la chapelle à l'angle nord-est, où sont les fresques du Volterrano. Il m'y conduit et me laisse seul. Là, assis sur le marchepied d'un prie-dieu, la tête renversée et appuyée sur le pupitre, pour pouvoir regarder au plafond, les sibylles du Volterrano m'ont donné peut-être le plus vif plaisir que la peinture m'ait jamais fait. J'étais déjà dans une sorte d'extase par l'idée d'être à Florence et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tombeaux. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais, pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, ce qu'on appelle des nerfs à Berlin. La vie était épuisée chez moi. Je marchais avec la crainte de tomber.
Alors Marc Jiménez, voilà deux manières d'approcher l'art. Une selon Jean-Pierre Changeux, c'était une archive de 1994. Jean-Pierre Changeux, le neurobiologiste, qui effectivement a travaillé sur la notion de neuroesthétique. Et puis l'approche de Stendhal dans Rome, Naples et Florence, qui date de 1817, dont on a entendu un extrait interprété par Fabien Wolfram. Dans ce texte, finalement, il restitue tout le mystère de l'émotion face à une œuvre d'art, face à l'église Santa Croce en l'occurrence. Alors là, on a deux approches de l'art du jugement esthétique que peut-être vous allez dépasser en nous proposant une troisième voie.
Mais elles sont pas contradictoires. Elles sont même liées, puisque finalement, le grand plaisir d'entendre Jean-Pierre Changeux là, parce qu'en fait, ce qu'il montre, c'est que les réactions à nos émotions, les réactions de inhabituelles et violentes, le choc esthétique, etc. C'est pas inné, mais c'est de l'acquis. C'est-à-dire, Jean-Pierre Changeux appelle ça, mais on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est en fonction du développement épigénétique du cerveau qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, on acquiert un certain nombre de réactions au cours de notre développement et de notre contact avec les œuvres d'art. Et là, il fait allusion, dans le passage qu'il a cité, je dis ça très très vite, finalement, à ce qu'on appelle le système hédonique. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion, on a notamment de plaisir, de satisfaction, on a des neurones qui transmettent et qui dégagent de la dopamine, dont on sait qu'effectivement c'est un stimulant et qui donne une illusion de plaisir. C'est le même phénomène dans les psychotropes, les drogues, etc. etc. C'est ce qui fait que ça provoque une accoutumance. Et alors, en ce qui concerne la question que pose Stendhal, mais est-ce qu'on peut mourir d'art ? À supposer que ce soit vrai, parce que on s'est longuement penché sur le syndrome de Stendhal. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes. Souvent, il fait très chaud. Souvent, on a la fatigue du voyage. Alors, c'est vrai qu'il y a des évanouissements. Est-ce qu'ils sont à mettre au compte des œuvres d'art? Admettons l'hypothèse très très belle de Stendhal. Et effectivement, on peut se dire que se trouver dans l'église Santa Croce, où vous avez D'un seul coup, quand vous êtes un homme de culture, vous avez le tombeau de Michel-Ange, il faut quand même le dire, vous avez le tombeau de Raphaël, de Machiavel, de Galilée, je veux dire, c'est énorme, de Rossini. Bon, pour quelqu'un comme Stendhal, c'est beaucoup à la fois. Il y a peut-être quoi tomber dans les pommes quand on est sensible à ces œuvres-là. Sans oublier le Christ de Cimabue, qui était quand même un chef-d'œuvre total. Donc, il ne choisit pas Santa Croce au hasard. Hein, c'est vraiment l'église qui renferme absolument un nombre de chefs-d'œuvre, sans parler du cénotaphe de Dante. D'ailleurs, dont la statue se trouve à l'extérieur de l'église Santa Croce.
Alors là où c'est contradictoire quand même, Marc Giménez, entre Stendhal et Changeux, c'est quand même que d'un côté, on a Changeux qui rabat la beauté sur un mécanisme cérébral qui tente de l'expliciter, que ce soit par l'inné ou par l'acquis, en fait, qui va rabattre le côté subjectif sur une dimension universelle, cérébrale, scientifique, biologique. Là, c'est le bio-art, une dimension du bio-art, de la neuroesthétique. Et puis, de l'autre, on a Stendhal qui, effectivement, alors c'est peut-être bête de les opposer comme ça, mais en attendant, Changeux exclut d'une certaine manière le fait qu'on puisse avoir des réactions différentes. Le fait que moi, je suis allée à Santa Croce et je ne suis pas tombée dans les pommes, malgré la tombe de Machiavel. Donc, il y a quand même ça, c'est-à-dire qu'il universalise, il déterminise Changeux, ce que ne fait pas Stendhal.
Oui, mais dites-moi, j'en sais rien, je dis ça pour rire, mais Jean-Pierre Changeux est peut-être tombé dans les pommes, lui, quand il est sorti de Santa Croce, il a peut-être fait comme Stendhal. Non, il ne rabat pas. Je reprends le terme que vous avez dit, parce que Changeux, avec lui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'il dit, notamment sur le fait qu'il tend quand même s'il s'en défend, à réduire l'esthétique, la sensibilité esthétique à des réactions physico-chimiques. Alors ça, ce réductionnisme-là, non, ça ne va pas. Mais par ailleurs, il est quand même celui qui montre qu'il y a une plasticité dans le cerveau qui fait que ce cerveau acquiert au cours de l'expérience, dans l'éducation, dans son milieu, dans son apprentissage, les zones du cerveau, et notamment les circuits neuronaux, se constituent en fonction, effectivement, de l'âge de l'individu. Ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis au cours des expériences.
Alors Marc Giménez, qu'est-ce qu'on entend là?
Que c'est le 448.
C'est ça, Mozart.
Pour deux pianos en ré majeur.
Exactement, sonate pour deux pianos en ré majeur. Après le syndrome Stendhal, l'effet Mozart, oui. Tout autant étudié en fait par la neuroesthétique. Oui. Mais l'on doit se quitter, Marc Giménez. Je conseille aux auditeurs de lire votre livre pour aller du côté de l'effet Mozart. Donc votre livre s'appelle « Art et technosciences, bio-art et neuroesthétique ». C'est disponible aux éditions Klingsic. Et puis j'annonce que sort « La pensée comme expérience esthétique et déconstruction », un ouvrage collectif que vous dirigez avec Vangelis Athanasopoulos. Et puis j'annonce aussi que apparaît chez Encre Marine, mi-septembre, Nietzsche, une lecture des derniers poèmes. Et puis évidemment, j'ai plaisir à le rappeler, car tous les étudiants en histoire de l'art et en philosophie de l'art s'en servent, c'est la querelle de l'art contemporain et c'est disponible en folio essai. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins, une semaine encore spéciale puisqu'après le bac que vous aide à préparer France Culture, la chaîne dès lundi se penche sur nos nouveaux savoirs, de l'histoire aux sciences, en passant donc bien évidemment par la philosophie, où nous recevrons de jeunes philosophes. Et si vous souhaitez réécouter cette émission et celle de cette semaine pour préparer le bac philo, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement les écouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.